Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort. Alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargées de pierres et de boue. Le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des Yeux ont des oreilles. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'addiction en littérature et des différentes formes qu'elle revêt. On a tendance souvent à définir l'addiction comme une dépendance à une substance ou une activité génératrice de plaisir, jusqu'au moment où le plaisir disparaît et où la consommation sert à combler un manque, une souffrance. Avec Mathias et Rémi, nous verrons que l'addiction s'étend à des degrés divers selon l'intensité de l'obsession, de l'aversion joyeuse en passant par l'obsession compulsive jusqu'à la dépression pathologique. On discernera ainsi les fameux drogués de la littérature, opium, morphine, hashish, à d'autres accros à une dépendance un peu plus particulière qu'on vous laissera découvrir. Et tout de suite, je laisse la parole à Mathias avec l'un des plus fameux consommateurs d'opium en littérature.
Le lecteur n'ignore pas que l'opium avait depuis longtemps cessé de fonder son empire sur les enchantements de la jouissance. C'est seulement par les tortures associées à toute tentative pour l'abjurer qu'il maintenait sa domination. Toutefois, comme d'autres tortures non moindres escortaient le tyran s'il n'était point abjuré, il restait à choisir entre deux maux. Dès lors, on pouvait aussi bien adopter celui qui, si terrible qu'il fût, offrait dûment une perspective finale de bonheur recouvré. Cela paraît juste, mais la bonne logique ne donnait pas à l'auteur la force d'agir en conséquence. Cependant, une crise survint qui intéressait et la vie de l'auteur et d'autres objets qui lui étaient plus chers encore, et qui lui resteront toujours bien plus chers que sa vie, même à présent qu'elle est redevenue heureuse. Je me rendis compte que je mourrais si je continuais à prendre de l'opium. Je résolus donc, s'il le fallait, de mourir en abandonnant. Combien en prenais-je à cette époque, je ne puis dire, car l'opium que je consommais était acheté pour moi par un ami qui refusa dans la suite de se laisser rembourser, en sorte que je ne pus même pas savoir de quelle quantité j'avais fait usage dans l'année. Je sais toutefois que j'en prenais très irrégulièrement et que cela variait de 50 ou 60 grains à 150 grains par jour. Ma première tâche fut de réduire la dose à 40, à 30, puis, aussi rapidement que je le pus, à 12 grains. De Quincy ou de Quincy, les confessions d'un mangeur d'opium anglais. L'addiction de Quincy, c'est à la vie, à la mort. Une passion qui dévore, étourdit et qui brise les limites entre la réalité et le rêve. On passe maintenant de l'opium à l'alcool avec Rémi.
Profonde joie du vin, qui ne vous a connu ? Quiconque a eu un remords à apaiser, un souvenir à évoquer, une douleur à noyer, un château en Espagne à bâtir, tous enfin vous ont invoqué, dieux mystérieux cachés dans les fibres de la vigne. Qu'ils sont grands, les spectacles du vin illuminés par le soleil intérieur. Qu'elle est vraie et brûlante, cette seconde jeunesse que l'homme puise en lui. Mais combien sont redoutables aussi ces voluptés foudroyantes et ces enchantements énervants. Et cependant, dites, en votre âme et conscience, juges, législateurs, hommes du monde, vous tous que le bonheur rend doux, à qui la fortune rend la vertu et la santé facile, dites, qui de vous aura le courage impitoyable de condamner l'homme qui boit du génie ? D'ailleurs, le vin n'est pas toujours ce terrible lutteur sûr de sa victoire, ayant juré de n'avoir ni pitié ni merci. Le vin est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer et le mépriser, l'aimer et le haïr, ni combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruels envers lui qu'envers nous-mêmes, et traitons-le comme notre égal. Il me semble parfois que j'entends dire au vin, il parle avec son âme, avec cette voix des esprits qui n'est entendue que des esprits. Homme, mon bien-aimé, je veux pousser vers toi, en dépit de ma prison de verre et de mes verrous de liège, un champ plein de fraternité, un champ plein de joie, de lumière et d'espérance. Je ne suis point ingrat, je sais que je te dois la vie. Je sais ce qu'il t'en a coûté de labeur et de soleil sur les épaules. Tu m'as donné la vie, et je t'en récompenserai. Je te paierai largement ma dette, car j'éprouve une joie extraordinaire quand je tombe au fond d'un gosier altéré par le travail. La poitrine d'un honnête homme est un séjour qui me plaît bien mieux que ces caves mélancoliques et insensibles. C'est une tombe joyeuse où j'accomplis ma destinée avec enthousiasme. Je fais dans l'estomac du travailleur un grand remue-ménage, et de là, par des escaliers invisibles, je monte dans son cerveau où j'exécute ma danse suprême. Les coudes sur la table de famille et les manches retroussées, tu me glorifieras fièrement et tu seras vraiment content. J'allumerai les yeux de ta vieille femme, la vieille compagne de tes chagrins journaliers et de tes plus vieilles espérances. J'attendrirai son regard et je mettrai au fond de sa prunelle l'éclair de sa jeunesse. Et ton cher petit, tout pâle, ce pauvre petit ânon attelé à la même fatigue que le limonier, je lui rendrai les belles couleurs de son berceau et je serai pour ce nouvel athlète de la vie l'huile qui raffermissait les muscles des anciens lutteurs. » Charles Baudelaire, qui décrit ici les charmes du vin, ne s'est pas contenté des seuls paradis artificiels procurés par la boisson. En particulier, il fut membre d'un certain club des hachichins, où l'avait introduit Théophile Gautier, avec qui il allait nouer une longue et solide amitié.
Le dîner tirait à sa fin. Déjà, quelques-uns des plus fervents adeptes ressentaient les effets de la pâte verte. J'avais, pour ma part, éprouvé une transposition complète de goût. L'eau que je buvais me semblait avoir la saveur du vin le plus exquis. La viande se changeait dans ma bouche en framboise et réciproquement. Je n'aurais pas discerné une côtelette d'une pêche. Mes voisins commençaient à me paraître un peu originaux. Ils ouvraient de grandes prunelles de chat-huant, leur nez s'allongeait en proboscide. Leur bouche s'étendait en ouverture de grelot. Leur figure se nuançait de teintes surnaturelles. L'un d'eux, face pâle dans une barbe noire, riait aux éclats d'un spectacle invisible. L'autre faisait d'incroyables efforts pour porter son verre à ses lèvres, et ses contorsions pour y arriver excitaient des huées étourdissantes. Celui-ci, agité de mouvements nerveux, tournait ses pouces avec une incroyable agilité. Celui-là, renversé sur le dos de sa chaise, les yeux vagues, les bras morts, se faisait couler en voluptueux dont la mer son fond de l'anéantissement. Moi, accoudé sur la table, je considérais tout cela à la clarté d'un reste de raison qui s'en allait, et revenait par instants comme une veilleuse près de s'éteindre. De sourdes chaleurs me parcouraient les membres, et la folie, comme une vague qui écume sur une roche et se retire pour s'élancer de nouveau, atteignait et quittait ma cervelle, qu'elle finit par envahir tout à fait. L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. « au salon !» cria un des convives. « N'entendez-vous pas ces chœurs célestes? Les musiciens sont au pupitre depuis longtemps. » En effet, une harmonie délicieuse nous arrivait par bouffée, à travers le tumulte de la conversation. Théophile Gautier, le club des hachichins.
Furnish it up. DP, JC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up.
Cependant, Gautier ne va pas participer souvent à ces séances, disant que, je le cite, « après une dizaine d'expériences, nous renonçâmes pour toujours à cette drogue enivrante, non qu'elle nous eût fait mal physiquement, mais le vrai littérateur n'a besoin que de ses rêves naturels, et il n'aime pas que sa pensée subisse l'influence d'un agent quelconque. » Cet avis ne sera apparemment pas partagé par un célèbre détective, puisque Sherlock Holmes lui-même s'abandonnera à la consommation de drogue, ennuyé par le manque d'enquête dans Le Signe des Quatre, deuxième aventure de Sir Conan Doyle.
Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant, son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras, criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait trois fois par jour, mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage, et la nuit, ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Aujourd'hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne ? Ses yeux quittèrent languissamment le vieux livre imprimé en caractère gothique qu'il tenait ouvert. « Cocaïne, dit-il, une solution à 7%. Vous le paierait-il de l'essayer ? Non, certainement pas, répondis-je avec brusquerie. Je ne suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. Ma véhémence le fit sourire. Peut-être avez-vous raison, Watson, dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps, mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable. Mais considérez la chose en son ensemble, m'écriai-je avec chaleur. Votre cerveau peut, en effet, connaître une acuité extraordinaire, mais à quel prix ? C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus, qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Le joint vaut-il la chandelle ? Pourquoi risquer de perdre, pour un simple plaisir passager, les grands dons qui sont en vous ? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui vous parle en ce moment, mais le médecin, en partie responsable de votre santé. Conan Doyle, le signe des quatre. La toxicomanie, Watson le rappelle, est d'abord une maladie. Bouglakov, médecin de formation, décrit ses ravages dans son récit « Morphine » ou le journal d'un médecin qui sombre dans une addiction qui le conduira à la mort.
18 mai, nuit étouffante, un orage se prépare. Son ventre noir enfle et grossit au loin, derrière la forêt. Un éclair blême et angoissant zèbre le ciel. Il commence à pleuvoir. Je tiens un livre qui parle des effets du sevrage chez les morphinomanes. Énervement, état d'angoisse et de mélancolie, irritabilité, trop de mémoire s'accompagnant parfois d'hallucinations et d'une légère confusion mentale. J'en ai pas eu, d'hallucinations. Quant au reste, qui sont ternes et convenus, ces mots, rien, ils ne disaient rien. État mélancolique. Maintenant que je suis atteinte de cette terrible maladie, je lance un avertissement aux médecins. De grâce, montez-vous plus charitable envers vos patients. Ce n'est pas la mélancolie, c'est une mort lente qui s'empare du morphinomane dès qu'on le prive de sa drogue pour une heure ou deux. L'air perd sa consistance et devient irrespirable. Il n'y a pas une seule cellule du corps qui ne soit assoiffée. De quoi ? On ne saurait ni l'expliquer ni le définir. L'être humain cesse d'exister. Voilà, il est hors circuit. C'est un cadavre qui se meut, qui souffre, qui a mal. Il ne veut rien, il ne pense à rien qu'à la morphine. La morphine. Mourir de soif est une mort paradisiaque, une mort bien heureuse en comparaison de ce qu'éprouve le misérable assoiffé de morphine. C'est ainsi, sans doute, qu'un enterré vivant tente, dans son tombeau, d'aspirer les dernières gouttes d'air tout en arrachant la peau de sa poitrine. C'est ainsi que, sur son bûcher, l'hérétique se débat et gémit lorsque les premières langues de feu viennent lécher ses pieds. La mort sèche, la mort lente. Voici ce qu'il définit, ces mots savants d'état mélancolique. Je n'en pouvais plus, alors j'ai pris ma seringue et je me suis fait une piqûre. Un soupir, encore un soupir. Ça va mieux. Le revoilà, ce petit froid mentholé au creux de l'estomac. 3 seringues à 3%, cela me suffira jusqu'à minuit. Bulgakov, morphine. Place maintenant aux addictions d'un autre genre. Addiction, fascination, obsession. Rémi va nous parler de l'obsession qui va habiter Gustav von Achenbach face à un jeune adolescent, Tadzio, qui va suivre mélancoliquement à travers les rues de Venise dans la célèbre nouvelle de Thomas Mann, La mort à Venise.
Sur les pas du bel adolescent, Achenbach, un après-midi, s'était enfoncé dans les dédales du centre de la cité empestée. Ne sachant plus s'orienter, étant donné que toutes les ruelles, les canaux, les passerelles et les places du labyrinthe se ressemblaient, n'étant même plus sûr de quel côté se trouvait l'hôtel, il ne pensait qu'à une chose, ne pas perdre de vue la silhouette ardemment suivie. Et tenu à des précautions dégradantes, rasant les murailles, se dissimulant derrière les passants, il fut longtemps avant de se rendre compte de la fatigue, de l'épuisement que sa passion et une incessante tension avaient infligé à son corps et à son esprit. Tadzio marchait derrière les siens. Dans les passages resserrés, il cédait habituellement le pas à sa gouvernante et aux petites nonnes, ses sœurs. Flânant en arrière, de temps en temps, il retournait la tête pour s'assurer d'un coup d'œil par-dessus l'épaule, d'un regard de ses étranges yeux couleur d'aube, que son amoureux le suivait. Il le voyait sans le trahir. Grisé par cette constatation, entraîné par ses yeux tenus en lisière par sa passion, celui-ci se faufilait à la poursuite de son inconvenante espérance. Il finit par se trouver volé. Les Polonais avaient franchi un pont en ogive, la hauteur de l'arche les cacha à leurs suiveurs, et quand il l'eut gravi à son tour, il les avait perdus de vue. Il explora l'horizon dans trois directions, droit devant lui et de chaque côté, le long du quai, étroit et sale, en vain. L'énervement, une fatigue à tomber, le forcèrent enfin à abandonner ses recherches. Sur les marches de la citerne, au milieu de la place, il s'affala, la tête appuyée à la margelle de pierre. Pas un bruit. L'herbe poussait entre les pavés. Des détritus étaient épars alentour. Il était donc assis là, le maître. L'artiste qui avait su croître en dignité, l'auteur du misérable qui avait, en une forme d'une pureté exemplaire, abjuré la bohème et le trouble des bas-fonds, dénoncé toute sympathie avec les abîmes, réprouvé le répréhensible. Lui qui était monté si haut, lui qui s'était affranchi de son savoir et libéré de l'ironie, avait pris l'habitude de se croire tenu par la confiance qu'il inspirait à son public. Gustav Aschenbach, dont la gloire était officielle, dont le nom avait été anobli et dont le style était imposé en modèle aux enfants des écoles, était assis là, les paupières fermées. Par intervalles seulement, il coulait à la dérobée un regard oblique, ironique et atterré, sur lequel vite se refermaient les paupières et ses lèvres flasques, dessinées au rouge, formulaient des mots détachés du discours que son cerveau engourdi composait selon l'étrange logique du rêve. Car, remarque-le bien, Phaedros, la beauté seule est divine et visible à la fois. Et ainsi, c'est par elle que l'on s'achemine au sensible. C'est par elle, petit Phaedros, que l'artiste s'engage dans les chemins de l'esprit. Mais crois-tu donc, ami, que celui-là atteindra jamais à la sagesse et à une virilité véritable qui s'achemine vers l'esprit par la voie des sens? Ou est-ce que tu crois, à toi de décider, que cette voie soit pleine d'aimables dangers, que ce soit vraiment une voie tortueuse et coupable, et qu'elle mène nécessairement à l'erreur? Car il faut que tu saches que nous autres poètes, nous ne pouvons suivre le chemin de la beauté sans qu'Eros se joigne à nous et prenne la direction. Encore que nous puissions être des héros à notre façon et des gens de guerre disciplinés, nous sommes comme les femmes. Car la passion est pour nous édification et notre aspiration doit demeurer amour. Tel est notre plaisir et telle est notre honte. L'amour comme une addiction à la beauté. Voilà l'expérience que fait ici Aschenbach dans La mort à Venise de Thomas Mann. Une beauté si pure et absolue que c'est à Platon que Mann fait appel pour peupler les divagations de son personnage. Mais l'addiction peut également se porter sur une composante bien plus charnelle de l'amour, et c'est ce qu'Héloïse veut vous faire entendre maintenant.
Une semaine qu'elle tient, une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En 4 jours, elle a couru 32 kilomètres. Elle est allée de Piga aux Champs-Élysées, du musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur le quai des Airs, la nuit sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool, elle s'est couchée tôt. Cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève, boit un café très fort dans la maison endormie. Debout, dans la cuisine, elle se balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette. Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu'on la saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre. Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui jouit. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu'on lui pince les seins, qu'on lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin d'un ogre. Elle ne réveille personne. Elle s'habille dans le noir et ne dit pas au revoir. Elle est trop nerveuse pour sourire à qui que ce soit, pour entamer une conversation matinale. Adèle sort de chez elle et marche dans les rues vides. Elle descend les escaliers du métro Jules Geoffrin, la tête basse, nauséeuse. Dans la rame, Adèle regarde autour d'elle. Un homme dans un costume bon marché l'observe. Il a des chaussures pointues mal cirées et des mains poilues. Il est laid, il pourrait faire l'affaire. Comme l'étudiant qui tient sa copine enlacée et lui dépose des baisers dans le cou. Comme le cinquantenaire debout contre la vitre qui lit sans lever les yeux vers elle. Avoir envie, c'est déjà céder. La digue est rompue. À quoi servirait de se retenir? La vie n'en serait pas plus belle. À présent, elle réfléchit en opiomane, en joueuse de cartes. Elle est satisfaite d'avoir repoussé la tentation pendant quelques jours, qu'elle en a oublié le danger. Elle se lève, soulève le loquet poisseux, la porte s'ouvre. Récit donc ici de la descente aux enfers d'une nymphomane, d'une toxicomane accro à la chair. Et ça va être le récit d'une addiction un peu plus légère que va nous faire Mathias à travers la lecture d'un extrait du côté de chez Swann, où le narrateur, bien loin des pensées obsessionnelles et sexuelles d'Adèle, attend avec désir et angoisse que sa mère vienne déposer sur son front le baiser du soir rituel.
Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressés, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler, lui dire « Embrasse-moi une fois encore ». Mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation, en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ses rides absurdes, et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus. Or, la voir fâchée détruisait tout le calme qu'elle m'avait apporté un instant avant, quand elle avait penché vers mon lit sa figure aimante et me l'avait tendue comme une hostie pour une communion de paix où mes lèvres puiseraient sa présence réelle et le pouvoir de m'endormir. Mais ces soirs-là, où maman en somme restait si peu de temps dans ma chambre, étaient doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Proust, à la recherche du temps perdu. Le jeune Marcel ne peut pas se passer de sa tendre mère. Certains diront que ce n'est pas vraiment une addiction, mais qu'importe. Pour Marcel, plutôt mourir que de ne pas avoir le baiser de sa mère tous les soirs. Cependant, une addiction n'a pas toujours à être sombre. Elle peut aussi nous faire rire et, pourquoi pas, être créatrice. Voyons cela avec Rémi.
Enfin, notre Hidalgo s'acharna tellement à sa lecture que ses nuits se passaient en lisant du soir au matin et ses jours du matin au soir. Si bien qu'à force de dormir peu et de lire beaucoup, il se dessécha le cerveau, de manière qu'il vint à perdre l'esprit. Son imagination se remplit de tout ce qu'il avait lu dans les livres, enchantements, querelles, défis, batailles, blessures, galanteries, amour, tempêtes et autres extravagances. Et il se fourra si bien dans la tête que tout ce magasin d'inventions rêvées était la vérité pure, qu'il n'eut pour lui nulle autre histoire plus certaine dans le monde. Il disait que le Cid de Ruy Diaz avait sans doute été bon chevalier, mais qu'il n'approchait point du chevalier de l'ardente épée, lequel, d'un seul revers, avait coupé par la moitié deux farouches et formidables géants. Il faisait plus de cas de Bernard del Carpio, parce que, dans la gorge de Roncefaux, il avait mis à mort Roland l'Enchanté, cédant de l'adresse d'Hercule quand il étouffa Hanté, le fils de la terre, entre ses bras. Il disait grand bien du géant Morgan, qui, tout issu qu'il fût de cette race géante où tous sont arrogants et discourtois, était lui seul affable et bien élevé. Mais celui qu'il préférait à tous les autres, c'était Renaud de Montauban. Surtout quand il le voyait sortir de son château et détrousser autant de gens qu'il en rencontrait, ou voler par-delà le détroit cette idole de Mahomet, qui était toute d'or à ce que dit son histoire. Quant au traître Ganelon, pour lui administrer une volée de coups de pied dans les côtes, il aurait volontiers donné sa gouvernante et même sa nièce par-dessus le marché. Finalement, ayant perdu l'esprit sans ressources, il vint à donner dans la plus étrange pensée dont jamais fou se fût avisé dans le monde. Il lui parut convenable et nécessaire, aussi bien pour l'éclat de sa gloire que pour le service de son pays, de se faire chevalier errant, de s'en aller par le monde, avec son cheval et ses armes, chercher les aventures, et de pratiquer tout ce qu'il avait lu que pratiquaient les chevaliers errants, redressant toutes sortes de torts et s'exposant à tant de rencontres, à tant de périls, qu'il acquit en les surmontant une éternelle renommée. Il s'imaginait déjà, le pauvre rêveur, voir couronner la valeur de son bras au moins par l'empire de Trébizonde. Ainsi, emporté par de si douces pensées et par l'ineffable attrait qu'il y trouvait, il se hâta de mettre son désir en pratique. Cervantes, Don Quichotte. L'obsession de Don Quichotte est certes comique, mais celle avec laquelle nous terminerons cette émission l'est bien plus encore. Elle est extraite des Bijoux indiscrets, publiés anonymement par Denis Diderot, où un certain sultan Mangogul reçoit d'un génie un anneau permettant de faire parler les génitoires des dames.
Mangogul porta la main sur son anneau, et le bijou suranné se mit à raconter la dernière de ses aventures. il y avait si longtemps que les premières s'étaient passées, qu'il en avait presque perdu la mémoire. « Retire-toi, Médor, dit-il d'une voix enrouée. Tu me fatigues. J'aime mieux Lisette. Je la trouve plus douce. » Médor, à qui la voix du bijou était inconnue, allait toujours son train. Mais Aria, se réveillant, continua. « Ôte-toi donc, petit fripon. Tu m'empêches de me reposer. Cela est bon quelquefois, mais trop est trop. » Médor se retira. Lisette prit sa place et Aria se rendormit. Mais à propos, j'oubliais de vous raconter ce qui se passa la première nuit des noces d'Aria. J'ai bien vu des choses ridicules en ma vie, mais jamais aucune qui le fût tant. Après un grand souper, les époux sont conduits à leur appartement. Tout le monde se retire, à l'exception des femmes de madame, qui la déshabillent. La voilà déshabillée. On la met au lit, et Saint-Dor reste seul avec elle. S'apercevant que, plus alerte que lui, les gredins, les doguins, les levrettes s'emparaient de son épouse, « Permettez, madame, lui dit-il, que j'écarte un peu ses rivaux. « Mon cher, faites ce que vous pourrez, lui dit Aria. Pour moi, je n'ai pas le courage de les chasser. Ces petits animaux me sont attachés, et il y a si longtemps que je n'ai d'autre compagnie. Ils auront peut-être, repris Saint-Dor, la politesse de me céder aujourd'hui une place que je dois occuper. » Saint-Dor employa d'abord les voix de douceur et supplia Zinzoline de se retirer dans un coin. Mais l'animal indocile se mit à gronder. L'alarme se répandit parmi le reste de la troupe, et le doguin et les gredins aboyèrent comme si l'on eût égorgé leur maîtresse. Impatienté de ce bruit, Saint-Dor culbute le doguin, écarte un des gredins et saisit Médor par la patte. Médor, le fidèle Médor, abandonné de ses alliés, avait tenté de réparer cette perte par les avantages du poste. Collé sur les cuisses de sa maîtresse, les yeux enflammés, le poil hérissé et la gueule béante, il fronçait le mufle et présentait à l'ennemi deux rangs de dents des plus aigus. Saint-Dor lui livra plus d'un assaut. Plus d'une fois, Médor le repoussa, les doigts pincés et les manchettes déchirées. L'action avait duré plus d'un quart d'heure, avec une opiniâtreté qui n'amusait qu'Aria. Lorsque Saint-Dor recourut au stratagème contre un ennemi qu'il désespérait de vaincre par la force, il agaça Médor de la main droite. Médor, attentif à ce mouvement, n'aperçut point celui de la gauche et fut pris par le col. Il fit pour se dégager des efforts inouïs, mais inutiles. Il fallut abandonner le champ de bataille et céder Aria. Saint-Dor s'en empara, mais non sans effusion de sang. Aria avait apparemment résolu que la première nuit de ses noces fût sanglante. Ces animaux firent une forte belle défense, mais ne trompèrent point son attente. Les bijoux indiscrets, Diderot. Alors, on est ici donc sur une addiction un peu moins tourmentée que d'habitude, mais qui dit qu'une addiction doit être triste. On est tous un peu accros, sans doute pour ne pas être trop accrans. Je tiens à remercier Héloïse et Rémi pour avoir lu avec moi, et un grand merci à Manu et Maxime pour la régie. En attendant, à bientôt sur Transistor, et n'oubliez pas de lire à voix haute.
Merci à vous, Héloïse, Mathias et Rémi, pour ce charmant numéro des yeux ont des oreilles sur notre lot commun à tous.